Il est 7h.
Nous sommes des réanimateurs, on se bat pour la vie. Les choix comme ça, de ne pas prendre un patient parce qu'il y a un manque de lits, c'est insupportable pour nous.
La mise en garde des médecins réanimateurs. Si la pression ne retombe pas dans leur service, ils devront choisir leurs malades, disent-ils. Ni mea culpa, ni tabou. Emmanuel Macron assume sa stratégie et n'exclut pas de nouvelles mesures. Conférence de presse hier soir. Dans ce journal aussi, 400 tentes installées en 10 minutes. Opération coup de poing, place de la République à Paris, pour obtenir l'hébergement de plusieurs centaines de migrants. L'ambition du sacre pour le 15 de France, il faudra battre largement l'Écosse ce soir pour remporter le tournoi des 6 nations. Et puis, l'ode à la différence d'Eddie Depreto, sorti de son nouvel album aujourd'hui. Juste après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré, suivi du regard international. Vincent Hervouet.
Oui, Joe Biden fait de la figuration au Conseil européen. L'Occident est de retour et Bruxelles est content.
L'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'ai vérifié votre dentition ce matin en entrant dans le studio. Vous n'avez pas les dents du bonheur. Le petit interstice entre les deux incisives. Mais d'où vient cette expression ? Les dents du bonheur. Réponse dans un instant.
A tout à l'heure Stéphane. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h sur Europe 1, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Assumer et préparer, le double message d'Emmanuel Macron qui a pris la parole tard hier soir en marge du sommet européen avec cette réponse à ceux qui dénoncent son pari perdu face à l'épidémie.
Est-ce que le 29 janvier nous aurions dû confiner le pays ? Non. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure. Et il n'y a, à mes yeux, aucun tabou.
Emmanuel Macron ouvert, donc, on l'entend, à toutes les options pour l'avenir et sans regret pour le passé. Jean-Rémy Baudeau, le chef de l'État s'affiche sûr de ses choix.
Oui, ni remords, ni regrets. Emmanuel Macron refuse l'idée que sa stratégie n'ait pas été la bonne. Qu'importe si son interprétation des courbes est contestée, si certains scientifiques avaient prévu l'explosion actuelle. Le chef de l'État justifie ses choix par cet équilibre qu'il convoque régulièrement. La santé mentale, les jeunes, l'éducation des enfants, l'économie. Mais ce constat fait, Emmanuel Macron ouvre la voie à de nouvelles mesures, comme s'il voulait sortir du schéma dans lequel il s'est enfermé depuis janvier. En réalité, à l'Élysée, à Matignon, plus personne ne fait mystère depuis plusieurs jours qu'il va falloir prendre de nouvelles restrictions draconiennes. La question des écoles est de plus en plus ouvertement posée. Un confinement généralisé en Île-de-France régulièrement évoqué. S'il assume de ne pas avoir confiné en janvier, Emmanuel Macron annonce bien une nouvelle séquence, plus dure, comme le confirmait hier l'un de ses proches. Emmanuel Macron ne sera pas le président qui fera du tri des patients. S'il faut confiner, il confinera.
Le tri des patients, justement, qui se profile dans certains services de réanimation, comme en Île-de-France, où les déprogrammations d'opérations devraient être portées à 80%. Mais ça risque de ne pas suffire, se désespèrent ces médecins réanimateurs rencontrés par Victor Dolande pour Europe 1.
Nous sommes des réanimateurs, on se bat pour la vie. Les choix comme ça, de ne pas prendre un patient parce qu'il y a un manque de lits, c'est insupportable pour nous.
Le professeur Yves Cohen, chef du service réanimation au CHU Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, déplore des afflux massifs de patients graves ces derniers jours. Dans son hôpital, il y a 16 lits de soins intensifs habituellement. En poussant les murs, il en a ouvert 16 de plus. Et il va monter jusqu'à 46 lits de réanimation au total dès demain. Mais il sait qu'il ne pourra pas faire plus.
On va choisir les patients à prendre. Quand on aura deux patients avec un seul lit, on va être obligé de prendre un seul patient. Donc il y aura un choix de patient à faire. Et malheureusement, ça veut dire que ce sera un sacrifice pour le patient.
Pour Bruno Mégarben, chef de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, il reste encore quelques possibilités pour ouvrir plus de lits, déprogrammer plus d'opérations non urgentes, former des étudiants infirmiers et...
établir des secteurs en réanimation de patients qui seraient traités par les appareils d'oxygénateur à haut débit, qui serait une situation dégradée évidemment par rapport aux soins optimaux, mais qui éviterait bien sûr de sélectionner à l'entrée sur la réanimation pour les patients les plus lourds.
Mais la question qu'ils se posent tous, c'est jusqu'à quand ? Avec des contaminations en constante hausse et des mesures pas assez restrictives, selon eux, les médecins se demandent combien de temps ils pourront encore tenir avant de faire des choix impossibles.
Mesures insuffisantes, c'est aussi l'avis de plusieurs élus des trois départements partiellement confinés à partir de la nuit prochaine.
Le maire de Troyes, François Baroin, estime qu'il faut poser la question de l'ouverture des écoles. Le gouvernement promet un protocole sanitaire renforcé dans les établissements.
Et face à la situation en France, l'Allemagne pourrait placer l'Hexagone en zone à risque. Les conditions de déplacement entre les deux pays pourraient donc se durcir.
7h05 sur Europe 1. Même combat, même endroit, l'hébergement des exilés au cœur d'une nouvelle opération hier soir, place de la République à Paris.
À l'occasion de la Nuit de la Solidarité et 4 mois après un rassemblement similaire dont l'évacuation par la police avait suscité l'émoi. Cette fois, l'opération s'est déroulée dans le calme. Reportage de Johanna Chabas pour Europe 1.
400 tentes installées en à peine 10 minutes juste avant le couvre-feu. À l'intérieur, des migrants, des familles et des mineurs isolés. Fatoumata est ivoirienne, elle est là avec son mari et sa fille de 9 ans.
On est là pour toute la nuit, pour avoir une solution pour notre problème, pour que l'enfant y aille à l'école.
L'action est organisée par un collectif d'associations, tout en tête une précédente opération sur cette même place fin novembre, qui s'était terminée par une intervention musclée de la police. Mais même en plein couvre-feu, c'est un risque à prendre pour Jean-Baptiste Hérault, président de l'association Droit au Logement.
En réalité, on ne sait pas comment ça peut se passer. Bon, il y a un moment donné, il faut peser le pour, le contre, et puis il faut y aller. Il y a des gens dehors, donc il faut y aller. On est poussé par les gens qui sont concernés, en fait. Ça fait partie de notre boulot d'interpeller le politique à s'occuper des sans-abri, des gens qui souffrent de la crise du logement.
Les préfectures de police et d'Île-de-France ont jugé cette opération irresponsable en pleine crise sanitaire, mais la police n'est pas intervenue. Peu après minuit, la mairie de Paris a promis des hébergements pour toutes les personnes présentes.
Plus de 700 victimes présumées et un accord à l'amiable record aux États-Unis. Plus $1 milliard obtenus par des plaignantes qui dénonçaient les abus sexuels commis par un médecin sur le campus d'une université de Los Angeles.
Il dit vouloir rassembler à droite, une ambition loin d'être acquise pour le désormais candidat à la présidentielle Xavier Bertrand.
Et d'autres ténors de la droite sont en effet en embuscade pour 2022. Pour Europe 1, Aurélie Herbemont.
Pas question de se jeter comme ça dans les bras de Xavier Bertrand. Gérard Larcher continue à bosser sur le système de départage, tranche un proche du président du Sénat. Que l'ancien ministre accélère ne fait pas capituler les défenseurs de la primaire. Pour Bruno Retailleau, il faudra bien un vote. Il a d'ailleurs vu Nicolas Sarkozy hier pour évoquer sa propre candidature. À droite, c'est surtout le calendrier choisi par Xavier Bertrand qui fait réagir en pleine incertitude sanitaire. Le timing est presque indécent, attaque improvoquée. Comme en écho, le camp Pécresse-Martel, nous, on gère la crise. Pendant qu'au siège du parti, on prend note de sa candidature, glisse un dirigeant, et on réglera ça comme prévu après les régionales. Les pro-Bertrand, eux, se félicitent qu'il ait pris tout le monde de court, tout en étant conscient que le match est loin d'être terminé. On ne doit pas trop le cogner, ce serait suicidaire, implore une élue qui n'a pas encore choisi son champion. Car s'il décolle dans les sondages, on se rassemblera derrière lui.
Xavier Bertrand qui a choisi Le Point et Europe 1 pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand qui sera l'invité du grand rendez-vous dimanche sur Europe 1, donc à partir de 10h.
Une expérimentation de 2 ans avec 3000 patients. Le cannabis médical lancé en test aujourd'hui à Clermont-Ferrand sous forme d'huile ou de fleurs pour inhalation. Il sera destiné à des patients souffrant de maladies graves ou d'effets secondaires, par exemple de la chimiothérapie.
C'est un défi immense. Mais il paraît qu'impossible n'est pas français. Ce soir, les joueurs du 15 de France visent la victoire dans le tournoi des 6 nations. Et pour ça, il faudra battre l'Écosse avec au moins 4 essais et 21 points d'écart.
Oui, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît compliqué. Mais en leur temps, d'autres bleus avaient relevé un tel défi. C'était en mars 2007, dernière journée du tournoi des 6 nations.
Déjà
le coq, déjà, face au chardon écossais. Même scénario et un potentiel sacre à la clé. L'ancien deuxième ligne Pascal Papé en était.
C'était exactement le même scénario, je me rappelle, puisque je jouais. Il fallait qu'on gagne de plus de 22 points ou 23 points pour gagner le tournoi en 2007. Et on jouait, on recevait l'Écosse. Je ne me rappelle plus le score, mais on avait réussi à gagner le tournoi. Donc c'est faisable, c'est faisable. On retrouve une équipe de France déjà qui postule à la victoire du tournoi. Donc ça, c'est déjà extrêmement bien, je trouve, parce que ça faisait, on va dire, 5-6 ans qu'on n'était plus trop dans les clous pour gagner le tournoi. Aujourd'hui, on est capable, ça fait 2 ans qu'on n'est pas loin. Et cette année, on peut encore espérer une victoire. Donc c'est génial parce que ça nous permet de gagner le tournoi. Et puis déjà, ça, voilà... On ne lutte plus en tout cas pour rien. On lutte maintenant pour gagner le tournoi et je trouve déjà que c'est une super avancée pour le rugby français.
Voilà, Pascal Papé et les Bleus de l'époque qui pourraient donc servir d'inspiration aux joueurs de Fabien Galthié. À l'époque, les Français avaient gagné 46-19.
Voilà, bah donc, c'est bien 46-19,
ouais,
on prend.
Ce serait bien, on prend. 21h ce soir, donc ce France-Écosse à suivre en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 20h et jusqu'à 23h30.
Bah évidemment, émission spéciale, vous allez vibrer avec le service des sports d'Europe 1 ce soir. Alors, il avait été de tous les festivals il y a 3 ans. Le jeune chanteur Eddy Depreto est de retour aujourd'hui avec un deuxième album.
Ouais, désormais incontournable Eddy Depreto et cet album intitulé « À tous les bâtards pour célébrer la différence », extrait pour Europe 1 avec Angèle Châtelier.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche.
Toutes nos différences, si elles sont mises en avant et elles sont assumées, et ben pour moi c'est là que transpire au mieux une société.
Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es.
Ce deuxième album d'Eddie Depreto est une ode aux gens différents, dit-il, qui ne correspondent pas aux normes sociales imposées.
Le moche, le chelou, le bizarre, le pédé, le bâtard, j'ai vachement reçu ces mots-là. Et donc du coup, au lieu d'être accablé, de les porter comme une faiblesse, c'est de dire en fait, bah, ces différences-là, ça va être que du positif. Et c'est ça qui sera le plus beau.
À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart.
Il évoque aussi son enfance, en banlieue parisienne à Créteil, là où dans sa chambre d'ado, il se projetait dans une vie d'artiste.
J'entends aussi les notes improvisées de mon clavier où je me promettais qu'un jour je saurais parfaitement jouer.
Une vie qu'à 27 ans, après des centaines de milliers d'albums vendus, Eddie Depreto ne se contente plus de rêver.
Je suis à nu, à vue, sans même plus une armure qui m'aille, prêt à prendre toutes tes balles. À nu, à vue, regarde, c'est déjà trop tard, t'as vu mon cœur qui baille.
La voix d'Eddie Depreto qui s'est imposée dans le paysage musical français à tous les bâtards, ce deuxième album.
Merci Angèle Châtelier aussi de nous laisser un peu quelques notes d'une autre chanson. Parce que la chanson sur le bateau mouche, on l'a entendu, on l'a bouclé. Au moins on découvre un peu plus cet album.
Et puisque vous parlez de bateau, sachez que Venise a décidé d'interdire la venue des paquebots de croisière au bord de la lagune. Décision du gouvernement italien. Ces paquebots jugés trop polluants et trop dangereux pour le site historique.
Je suis perdu sur mes transitions. Il y a trop de transitions possibles. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais rassembler mes esprits et envoyer un jingle.
Europe 1, Mathieu Béliard.
D'abord de la musique, on parlait d'Eddie Depreto, de l'opéra, ce matin sur Europe 1, particulièrement pour ceux à qui les salles manquent. Ce soir sur France 5, vous pourrez voir Faust de Charles Gounod, joué et enregistré il y a une semaine à l'Opéra Bastille, dans le respect des gestes barrières évidemment. Et ce matin, je vous invite à découvrir un jeune chef d'orchestre. Jeune, mais c'est lui qui dirige cette représentation, Lorenzo Viotti, l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Et tout de suite, je cherchais des transitions avec ces histoires de bateaux de Marion Calais, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Et encore une histoire de bateau, c'est un coup de vent qui a fait dévier le cargo qui bloque le canal de Suez, un coup de vent qui coûte des milliards et perturbe le commerce mondial.
À tout de suite sur Europe 1, bon réveil. 7h14 sur Europe 1.
L'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Il faudra des jours, peut-être des semaines, pour dégager le cargo géant qui bloque le canal de Suez. On en a parlé dès hier matin avec vous. On a envie d'y voir plus clair. Ce cargo menace tout simplement de désorganiser le commerce entre l'Europe et l'Asie.
Oui, peut-être avez-vous vu ces cartes maritimes en temps réel, absolument fascinantes, où on voit se former un formidable embouteillage de centaines de navires qui s'agglutinent aux entrées nord et sud du canal. Alors, le blocage du canal de Suez, c'est un énorme grain de sable dans la mondialisation. Chaque jour qui passe augmente le coût économique de cet événement complètement improbable. 400 millions de dollars par heure, vous imaginez. Et accessoirement, ça prive l'Égypte de l'une de ses principales sources de devises. Le canal lui rapporte 5 milliards de dollars par an, trois fois plus que l'aide militaire américaine.
400 millions de dollars par heure, c'est stratosphérique. Il n'est pas exagéré de dire que ce blocage a des conséquences planétaires du coup.
Oui, tous les jours près de 10 milliards de dollars de marchandises transitent par le canal, environ 5 milliards dans chaque sens. C'est l'artère principale du commerce entre l'Europe et l'Asie. La couper, c'est tout simplement perturber toute l'irrigation des flux commerciaux entre les deux plus grandes zones économiques et commerçantes de la planète. Il faut réorienter les flux, faire une énorme dérivation de plusieurs milliers de kilomètres autour de l'Afrique. Chaque jour, 2 millions de barils de pétrole, russe principalement, empruntent également le canal pour fournir du carburant aux économies asiatiques, un lien vital pour tous ces pays.
Cet événement montre aussi qu'il suffit de pas grand-chose finalement pour perturber toute l'économie.
Oui, alors ça c'est vraiment fascinant, on l'a vu avec le virus, hein. En quelques mois, il a mis par terre toutes les économies de la planète et coûté des milliers de milliards de dollars. Là, eh bien, c'est un simple coup de vent. Oui, un coup de vent qui a fait tanguer cet énorme cargo, un coup de vent qui coûte chaque jour donc des milliards. Ironie de l'histoire, pour s'en sortir, on compte sur un autre événement naturel, la marée, parce qu'il y aura des grandes marées dimanche et lundi, en espérant qu'elle permettra de dégager le cargo du sable dans lequel il est retenu. Ça rend modeste, vous le voyez, il suffit de peu de choses pour faire dérailler cette extraordinaire mécanique de précision qu'est devenue l'économie mondiale. Une perturbation à un bout de la chaîne, des composants qui manquent, un retard dans des flux tendus de pièces pièces ou de matières premières. Et c'est tout le système qui s'enraye. Plus celui-ci est complexe, plus les risques sont multiples et imprévisibles, comme un coup de vent.
Alors je me suis permis, pendant votre édito éco, Nicolas Barret, d'aller voir justement, j'ai tapé tout simplement carte maritime en temps réel sur Google. C'est impressionnant. C'est impressionnant l'embouteillage.
On dirait des avions. Hein.
Exactement.
C'est fascinant.
Du côté du canal de Suez. Merci Nicolas Barret. 7h16.
C'était l'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et on retrouve Vincent Hervouet pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Joe Biden a participé hier au Conseil européen.
Oui, c'était formidable, quasi historique, et tout le monde a répété que la dernière venue d'un président américain, c'était Barack Obama. En 2009, Obama avant son prix Nobel, et ça doit être pour ça qu'on le lui a donné. On se souvient même qu'il s'est tellement ennuyé qu'il a boudé le dîner et qu'il avait séché le sommet suivant, Europe-États-Unis. Première déception qui sera suivie de bien d'autres. Mais il est revenu. Et c'est normal, les Américains voient l'Europe comme la banlieue résidentielle de Arènes où siège l'OTAN. Ils passent en sortant de réunion et Barack Obama y a même dormi, laissant une facture d'hôtel de plus d'1 million d'euros. Un président américain, ça se déplace en grand équipage. Alors Donald Trump, lui aussi, est venu à Bruxelles et il a participé à ces sommets Union européenne, États-Unis, créés après le 11 septembre du temps de George Bush. Et donc la vérité, c'est qu'hier, pour la première fois, un président américain a participé à un sommet européen en visioconférence. Il y a 50 ans, Henry Kissinger demandait « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» Eh bien, on a maintenant la preuve en image qu'à Washington, quelqu'un a trouvé la réponse.
En tout cas, le lien Zoom. Quel est le bilan, Vincent ?
Ben, c'était sa participation, le bilan, ou plutôt sa figuration. Le bilan, c'est l'affiche Joe Biden, comme les 27 autres, dans sa petite case, sans doute celle qu'a déserté le Royaume-Uni. Les sommets en visioconférence, c'est le niveau zéro de la diplomatie multilatérale. Il n'y a aucun conciliabule, pas de caravansérail qui profite du bivouac pour faire ami-ami. On appuie sur play et les présidents lisent leurs notes. Joe Biden n'a pas gaffé, c'était impossible.
Anthony Blinken avait défriché le terrain.
Oui, le secrétaire d'État a passé 3 jours pleins à Bruxelles. Il a répété mot pour mot ce que disait Obama en 2009. Le monde est plus sûr et plus juste quand l'Europe et les États-Unis sont solidaires. Alors il faut entendre que les Européens se mettraient en danger s'ils prenaient leur autonomie. C'est exactement ce que pensent la plupart des Européens. Et pourtant, en une semaine, le duo Biden-Blinken a traité Poutine de tueur, accusé la Chine de génocide, provoqué la ruée des migrants au Mexique, réveillé les artilleurs nord-coréens. Ce n'est pas forcément un monde plus juste et plus sûr, mais au moins l'Occident est à l'affiche.
Vincent Hervouet, le regard international, il est 7h19 sur Europe 1. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Le 15 de France et nous, c'est comme un mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et ce soir, on attend le meilleur contre l'Écosse.
Ce sera juste avant le rendez-vous d'histoire que vous avez avec Stéphane Bern. À tout de suite sur Europe 1. 7h21 sur Europe 1, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le 15 de France affronte l'Écosse ce soir. C'est le dernier match des Bleus dans ce tournoi des 6 nations. En jeu, un premier sacre dans ce tournoi depuis 2010. Alors avant votre édito, je voulais simplement pour nos auditeurs repasser un petit extrait d'Europe 1 vendredi dernier. France Pays de Galles, Simon Rubin et Eric Blanc au micro.
On va le faire, attention.
Ouais,
allez, top,
ouais,
il y a du monde. Yes, Simon,
yes,
allez,
yes,
donne ta
yes,
balle.
Yes,
et c'est français.
Yes, ah, ça fait du bien. Je vous dis comme ça, même une semaine après, ça passe
on
toujours.
On est bien d'accord.
Et on a hâte du coup d'être à 21h pour la soirée spéciale sur Europe 1. Pour vous, Virginie, notre histoire avec le 15 de France, ça ressemble à un mariage.
Oui, on s'est juré fidélité pour le meilleur et pour le pire. Et depuis le début de ce tournoi Destination, on a un joli condensé de vie commune avec ces bleus qui soufflent le chaud et le froid. Ils nous enthousiasment autant qu'ils nous mettent en colère. On pleure, on rit entre champagne et vaisselle cassée depuis 2 mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas une relation tiède avec le 15 de France. Il y a de l'action. On risque pas de se laisser endormir par le train-train du quotidien. Regardez ce soir. Ce match contre l'Écosse, c'est quand même la possibilité de retrouver les sommets européens 11 ans après la dernière victoire. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut une large victoire, marquer 4 essais, avoir un bonus offensif et gagner par plus de 21 points d'écart. Ça veut dire qu'on va passer notre soirée à regarder le chronomètre, qu'on va trouver trop lent ou trop rapide, ça dépendra des moments. On va pousser les petits, comme on dit, par écran ou enceinte interposée. Ça ressemble à la soirée de l'année. Il n'y a pas à dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu avec les Bleus des moments de crainte et d'excitation mêlée. Fabien Galthié a redonné vie au 15 de France et en même temps il a fait renaître une passion folle entre le public et cette équipe. Le feu s'était un peu éteint au fil des années sans victoire, mais là, les Bleus ont parfaitement su souffler sur les braises.
Mais vous disiez pour le meilleur et pour le pire aussi.
Le problème dans les mariages, ouais, c'est parfois les discours lourdeaux de certains invités dont on se passerait bien. Bernard Laporte, le président de la Fédé, et son vice-président Serge Chimon nous ont quand même gratifié de sorties lunaires au sujet du protocole sanitaire pas franchement respecté par le 15 de France. Entre la poignée de porte contaminée et les digressions sur le patient zéro, on a été servi. Vous voyez ce moment où on plonge les yeux tous dans notre assiette parce qu'on a un peu honte? Voilà, ces moments-là. Et là, hier, comme si le match de ce soir n'avait pas assez d'attrait, comme s'il ne valait pas mieux faire profil bas après l'histoire des joueurs sortis manger des gaufres à Rome en brisant la bulle, le community manager de la Fédé a ironisé sur la journée internationale de la gaufre. Ouais, ça fait moyennement rire le ministère des Sports et les clubs du top 14, on les comprend. Vous savez ce qu'on va faire? On va laisser l'humour aux Anglais. Ils sont meilleurs. Hein, puis en plus, il leur reste que ça dans ce tournoi destination.
Oh,
voilà.
Oh, sa chambre.
Et nous, on va prendre la victoire. Non, que ça finisse en lune de miel plutôt qu'en divorce à l'écossaise.
On a fait un contrat de mariage ou pas?
Vous avez signé, vous avez signé.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. L'édito sport, c'est tous les matins. Et c'est à 7h20. Il est l'heure de retrouver à 7h24 Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi, quand on a les incisives du haut particulièrement écartées, on parle des dents du bonheur? D'ailleurs, il y a un nom scientifique pour cette caractéristique, un diastème, du grec diastema, qui signifie intervalle.
Avoir les dents du bonheur, j'imagine, ou j'espère que ça porte chance à ceux qui ont ce signe distinctif, c'est le cas?
Oui, c'est absolument le cas. Il faudrait demander à Yannick Noah aussi, à Vanessa Paradis, à William Lémergie, à Laurent Voulzy, à Jane Birkin, Béatrice Dalle, Mike Tyson, Virginie, que vous connaissez bien, mais ça risque de prendre un peu de temps.
Personnellement,
très bien. Et puis, à condition que Mike Tyson soit de bonne humeur. Oui, évidemment. Sinon, je ne poserai pas la question.
Parce que je ne voudrais pas avoir l'oreille du bonheur.
En fait, l'expression date des guerres napoléoniennes. Les soldats devaient tenir de leurs deux mains de lourds fusils et ils n'avaient que leurs dents pour déchirer l'emballage papier dans lequel il y avait la recharge de poudre. Il fallait une mâchoire en parfait état de marche et ceux qui avaient les dents gâtées ou même écartées étaient déclarés inaptes au combat, réformés de rechef. Quelle joie de ne pas aller au front! Voilà pourquoi on disait, quand on avait les dents écartées, qu'on avait les dents du bonheur qui vous évitaient de partir vous faire tuer à la guerre. Allez, terminons sur une citation dentaire et néanmoins terrible d'Alexandre Dumas. « L'homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions, et il meurt sans cheveux, sans dents et sans illusions. » C'est réjouissant. Non, il se passe bonne journée
trois...
à tous.
Il se passe deux, trois choses entre les deux, évidemment. Notamment, historiquement vôtre, de 16h à 18h,
oui,
tous les jours.
Absolument. Et vous allez voir, aujourd'hui, on réunit Al Capone, le célèbre chef de la mafia de Chicago, le génie William Shakespeare et l'actrice vedette la plus célèbre de Chine, Fang Bingbing. Leur point commun?
Les dents du bonheur.
Non, ils ont fraudé le fisc. Oui, même Shakespeare. Tout triche, not tout triche, that is the question.
À tout à l'heure, 16h. 7h26, dans quelques secondes, Laurent Cabrol pour la météo et un nouveau journal avec Sophie Hachène. À tout de suite. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
C'est comme hier, près de la Manche, les pluies arrivent, d'ailleurs elles sont en Bretagne déjà. Donc il pleuvra près de la Manche, sur les pays de la Loire, dans le Perche, la Sarthe, la Mayenne et peut-être ce soir à Paris, je dis peut-être parce que ça n'engage que moi. La prévision est assez floue dans ce domaine. Allez, moi je pense qu'il pleuvra pendant le match. Alors en ce qui concerne les températures d'aujourd'hui, entre 4, alors partout ailleurs, que je n'ai pas cité, ce sera une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Température entre 14 et 20 degrés, il en fera 16 à Paris, 17 à Marseille, 19 à Lyon et 20 degrés à Toulouse. Vous voyez que ce sont des températures très agréables. Demain samedi, on va nettoyer un peu tout ça. Il y aura certes des nuages, mais l'impression deviendra très agréable. Dimanche, ce sera un beau printemps. Lundi, mardi, super beau, mais super beau. Mercredi, jeudi, probablement. Et ça devrait s'arrêter en fin de semaine. Enfin, je ne dis rien. En tout cas, je vous l'ai dit, ne mettez pas les doudounes à la naphtaline, c'est trop tôt.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Le sida, ah ouais, ça se transmet sexuellement, non? Genre, je connais personne de mon âge ou de ma génération qui a eu quelque chose comme ça.
Des propos surprenants et pourtant à l'occasion du SIDAction qui démarre aujourd'hui, un sondage révèle qu'un tiers des jeunes s'estiment mal informés sur le VIH. Dans ce journal, pas de nouvelles restrictions à prévoir pour lutter contre le Covid. Le gouvernement veut attendre l'effet des mesures déjà en place. Des peines symboliques contre les gilets jaunes jugés après le saccage de l'Arc de Triomphe il y a 2 ans. Et puis à Roubaix, les danseurs se produisent dans des EHPAD, actions solidaires et militantes pour faire vivre la culture.
Juste après ce journal, la touche Cham, c'est Bertrand Chamerois. Un jeune prodige dans le tête-à-tête Europe Matin, Lorenzo Viotti, chef d'orchestre, 31 ans, il dirige Faust à l'Opéra Bastille. C'est diffusé ce soir sur France 5. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Voilà, c'est officiel. Xavier Bertrand est candidat à l'Élysée, mais au fait, est-ce que cette entrée en campagne est réussie ?
Réponse à 8h10, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, le professeur El-Bachir Ben Bouhamed, formé pendant 10 ans à l'Institut Pasteur, installé aux États-Unis aujourd'hui. Ce chercheur américano-marocain travaille sur un vaccin universel contre tous les coronavirus. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Confinement, déconfinement, variants, vaccins, cela fait un an que l'épidémie de Covid monopolise l'attention. Mais d'autres maladies circulent toujours, c'est le cas du sida. Après son annulation l'année dernière à cause de la crise, le SIDAction démarre aujourd'hui. La collecte de dons durera jusqu'à dimanche.
Et ce matin, on va se pencher sur ce chiffre. Un jeune sur trois se dit mal informé sur la maladie. 13% d'entre eux, par exemple, pensent qu'on peut savoir si une personne a le sida rien qu'en la regardant. 20% croient que la pilule d'urgence, la pilule du lendemain, permet d'empêcher la transmission du virus.
Il y a des confusions qui résultent d'un recul de l'information sur le VIH. Virginie Riva.
Certaines idées fausses subsistent plus de 40 ans après la découverte du virus. Un quart des 15-24 ans pensent qu'on peut se contaminer en embrassant une personne séropositive. Des jeunes qui, par manque d'informations, ne se sentent pas forcément à risque. Seul un tiers d'entre eux déclare avoir utilisé un préservatif lors d'un rapport sexuel. Et cette méconnaissance de la maladie se confirme dans la rue.
Le sida, ah ouais, ça se transmet sexuellement, non ?
La capote, elle protège pas forcément. Enfin, elle protège, mais... Il y a des cas où ça ne protège pas.
Ça m'est arrivé d'avoir un coup d'un soir, on va dire, et de ne pas mettre de préservatif. D'ailleurs, j'ai regretté tout de suite après, mais...
C'est vrai qu'on a l'impression qu'on risque rien. Genre, c'est pas, ça ne touche pas. Je connais personne de mon âge ou de ma génération qui a eu quelque chose comme ça.
41% des jeunes pensent qu'il y a de moins en moins de contaminations dans leur tranche d'âge. Et pourtant, la réalité, c'est que la transmission du virus chez les 15-24 ans est stable. En 2019, il représentait toujours 13% des nouvelles contaminations. Parmi les personnes infectées, 24 000 ignoraient leur séropositivité. Une invisibilisation du virus accrue par la crise sanitaire. En 2020, le nombre de dépistages était en baisse de 10%.
Et à noter que l'association Cœur de Gamer organise un marathon caritatif pendant tout le week-end en partenariat avec le SIDAction. Des joueurs animeront plusieurs lives sur la plateforme de streaming Twitch pour récolter des dons.
C'est bien de le mentionner, ils rapportent des millions d'euros aux associations quand ils s'y mettent, les joueurs de jeux vidéo comme ça sur Twitch, c'est impressionnant. On en vient à l'épidémie de coronavirus cette fois. Dès ce soir, la Nièvre, l'Aube et le Rhône seront soumis à de nouvelles restrictions pour au moins 4 semaines.
Mais alors que le nombre de contaminations explose sur tout le territoire et que de nombreuses voix s'élèvent pour un confinement total du pays, le ministre de la Santé, Olivier Véran, tempère. Avant un éventuel durcissement, il faut d'abord voir si les mesures prises la semaine dernière sont efficaces.
Souvenez-vous, le couvre-feu, quand nous l'avions mis en place, beaucoup disaient que ça ne fonctionnera pas. Puis au bout de 10 jours, on a constaté que ça baissait. Le confinement d'octobre-novembre, beaucoup disaient « c'est un confinement light, vous ne fermez pas les écoles, ça ne fonctionnera pas ». Et au bout de 10 jours, l'épidémie a fortement baissé. Donc permettez-moi d'avoir confiance dans la capacité aussi de réaction collective des Français pour pouvoir adopter les bons gestes et faire refluer le virus.
Olivier Véran qui annonce également que dès aujourd'hui, les infirmiers pourront injecter les vaccins contre le Covid, mais aussi les prescrire eux-mêmes.
Des peines symboliques après le saccage de l'Arc de Triomphe au cours de l'acte 3 des Gilets jaunes, c'était il y a 2 ans.
8 personnes condamnées à de la prison avec sursis ou du travail d'intérêt général. Un jugement à la hauteur de leur rôle, modeste dans cet événement. On le sait, les principaux auteurs n'ont jamais été identifiés. Maître Sajjad Asnaoui Dufresne est l'avocat d'un des prévenus qui a même été relaxé. Au micro de Justin Morin, il salue le fait que le jugement n'ait pas été influencé.
On est évidemment très satisfait que le tribunal ait fait du droit, rien que du droit. On avait averti le tribunal sur la nécessité de ne pas se laisser emporter par la tentation de trouver des responsables là où manifestement on ne les aura jamais. Il y avait des chefs de prévention qui étaient importants sur un monument qui est symbolique et qui reposait parfois sur des preuves trop ténues. C'est pourquoi il y a eu ces relax.
La suite des matchs de qualification pour le Mondial de football au Qatar l'année prochaine, après l'action des Norvégiens pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers migrants dans ce pays du Golfe hier. Ce sont les joueurs allemands qui sont entrés sur le terrain avec des t-shirts qui formaient les mots Human Rights, droits humains. Selon le quotidien britannique The Guardian, en 10 ans, 6500 travailleurs sont morts sur les chantiers des stades au Qatar.
Et puis cette initiative dont nous voulions vous parler, ça se passe dans les EHPAD de Roubaix. Les danseurs du Ballet du Nord se produisent devant les résidents pour faire revivre la culture malgré la pandémie.
Et de courtes performances de danse avec évidemment toutes les précautions sanitaires nécessaires, mais cela n'altère en rien l'émotion du moment. Pour Europe 1, Lionel Gougelot a pu assister à une représentation à l'EHPAD de la Fraternité.
Le violon résonne au cœur de l'unité Alzheimer de cette EHPAD. Devant quelques pensionnaires, au son de la musique, le danseur Sylvain Groux se lance dans une improvisation. Un véritable moment de grâce pour Janine et son aide-soignante Fabienne.
Il est bien.
C'est un bon danseur ?
C'est un bon danseur.
Ouais, hein.
C'est quelqu'un de bien.
Ouais, j'ai bien vu que vous étiez très attentif.
Ah oui.
Depuis des années, les Ballets du Nord proposent des spectacles à l'hôpital, au lycée, voire en entreprise. Mais en plein confinement, et là où le protocole sanitaire le permet, ces moments pour l'artiste sont d'autant plus précieux.
Là, actuellement, et c'est très symptomatique de la situation, on continue à proposer ces temps d'échange en spectacle dans les lieux captifs. C'est vers ces gens-là qu'on peut se tourner en ce moment. Je trouve que c'est très symptomatique de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi en profiter.
Et faire vivre le spectacle dans un établissement de soins malgré la pandémie, la violoniste Laetitia Ringeval y voit un joli symbole.
Et en fait, je pense que les gens qui disent oui, on a besoin de spectacle, on a besoin de culture, et nous les artistes, on a besoin de pratiquer, c'est parce que s'il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, jamais quoi. C'est un truc qui est vital du coup.
Vital aussi pour les pensionnaires. Selon les soignants, ils y trouvent bien-être et sérénité. À Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on va continuer en musique ce matin.
Mm-hmm.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 de l'Opéra, vendredi, en douceur. Faust, de Charles Gounod à l'Opéra Bastille, diffusé ce soir sur France 5. Vous savez, Faust qui avait vendu son âme au diable en échange de la jeunesse éternelle. Une rencontre ce matin, de la jeunesse justement. Le chef d'orchestre en vogue qui dirige cet opéra et à qui la scène manquait tant, furieusement. Lorenzo Viotti, le tête-à-tête Europe Matin, c'est dans 3 minutes. Mais tout de suite... Ah, arrêtez de chanter, Bertrand. La Toucham, Bertrand Chamon. Bonjour Bertrand.
Ouais, bonjour Mathieu. Pour être franc et poli, j'ai la tête dans le coltard. Je vous explique pourquoi dans un instant.
A tout de suite. 7h39 sur Europe 1. C'est l'heure de la Toucham. Le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu.
Oula.
Bonjour.
Oula, ça va ? Vous n'avez pas l'air en forme, Bertrand ?
Je suis claqué, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, l'enfer. Enfin, comme vous, je pense. Hein. Hier soir, il devait être 22h20, mes dents étaient brossées, j'étais prêt à aller faire de beaux rêves, un bon gros dodo, et juste avant d'éteindre la télé...
On va d'abord écouter le chef de l'État, Emmanuel Macron, depuis l'Élysée.
Bordel, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc maintenant, ça y est, on prévient même plus, Emmanuel Macron prend la parole comme ça, un jeudi soir. Alors je sais que c'est la tradition de parler après les conseils européens, mais quand même, 22h20 les gars, 22h20, on est tendu en ce moment. Emmanuel Macron qui parle, ça fait peur. Puis perso, j'avais plutôt prévu d'aller me baver dessus en ronflant, pas d'écouter le président. Emmanuel Macron, c'est ce pote qu'on a tous qui se fout de l'heure à laquelle il t'appelle. Oh. Ouais, allô ?
Bien, bonsoir à toutes et tous.
Ah bonsoir, ouais non Emmanuel, en fait là j'allais me coucher, je suis explosé, ça te dérange pas si on se rappelle demain ?
Nous sommes donc retrouvés pour un nouveau conseil européen en visioconférence.
Non mais t'es sérieux, tu vas vraiment me raconter ta journée de télétravail là ? Il est 22h20. Bon évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai écouté débriefer sa journée de boulot, donc en gros, pas de mea culpa, pas de remords, pas de constat d'échec, de l'espoir avec les vaccins, et aussi et surtout, le président a annoncé de nouvelles mesures à prendre dans les prochains jours et semaines. C'est le retour du grand méchant flou. De nouvelles mesures dans les prochains jours, semaines. Oui, pardon. Elle fait peur cette phrase, hein, mais elle n'est pas claire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle fait peur. Hein. Puis ça fait combien ? Ça fait 186 fois qu'on l'a entendu depuis le début de la crise. Franchement, si c'était pour annoncer ça, c'était pas la peine de le faire en direct. L'Élysée avait qu'à rediffuser un montage des différentes précédentes interventions, on y aurait vu que du feu. Il n'y a que la cravate qui changeait. Quoi. Bon, toujours est-il que ça m'a flingué la nuit. Une fois le discours du président terminé, impossible de m'endormir, la boule au ventre, j'avais peur de louper une intervention surprise de Jean Castex, donc j'ai dormi en fractionné, je mettais une alarme toutes les 10 minutes pour être sûr de rien rater. Non, parce que je refuse de me réveiller un matin de voir des gens avec les nouveaux masques qui couvrent juste le nez, vous savez, ceux qui ressemblent à des strings en papier de salon de massage. Mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on est reconfiné strictement, et ces masques, c'est la nouvelle norme pour manger, sinon c'est 135€ d'amende, et on doit marcher à cloche-pied. Mais depuis quand ? Bah t'as pas entendu Castex a parlé ? C'était cette nuit à 4h12. Je refuse de vivre ça. Alors, je vous laisse, Mathieu, il me reste 5 minutes avant que mon alarme sonne.
Merci Bertrand Chamerois, la Toucham. Tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Je vous souhaite un bon week-end, Bertrand.
Et à vous aussi, bonne
enfin,
nuit.
Enfin, ce sera après Culture Média à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel et toute son équipe. 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Et on termine la semaine en musique, dans le tête-à-tête Europe Matin. Vous avez aimé l'immense star Nathalie Dessay la semaine dernière, et bien je vous propose de découvrir un jeune talent. franco-suisse de 31 ans, chef d'orchestre qui a le vent dans le dos. On va parler de musique, de scène, de son métier que l'on ne connaît pas si bien, il faut le reconnaître. Il dirige Faust de Charles Gounod à l'Opéra Bastille. C'est diffusé ce soir sur France 5. Le chef d'orchestre Lorenzo Viotti est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Lorenzo Viotti.
Bonjour.
Alors on a presque pris un cours d'opéra vendredi dernier, à la même heure, hein, avec Nathalie Dessay. Parlez-nous de cet opéra diffusé ce soir, Faust de Charles Gounod, que vous dirigez à l'Opéra Bastille.
C'est un opéra, un grand opéra français. Un thème que beaucoup de gens connaissent, bien sûr, qui est Faust. Je trouve que la musique apporte une poésie juste merveilleuse à ce thème. C'est une musique qui peut paraître parfois un peu vieille, mais c'est fait exprès en fait. Donc vous allez entendre des choses très romantiques, des choses très classiques. C'est pas un opéra typique, je dirais, parce que généralement vous avez des airs très célèbres, des duos, des trios, des grands moments de chœur. Pour moi, c'est une très grande conversation en musique. Ce qui était très intéressant avec les chanteurs et avec l'orchestre, c'était de pouvoir essayer de transmettre toute cette délicatesse, cette passion, cette joie, des fois cette hystérie à travers la musique.
Faust, qui pactisa avec le diable en échange de jeunesse éternelle. Tiens, vous êtes un chef d'orchestre de 31 ans, en vogue. Cette thématique du rajeunissement, il y avait une forme d'ironie ?
Je pense qu'il y a quelque chose de magnifique à vieillir d'une certaine manière. Je suis mal placé parce que je n'ai que 31 ans.
C'est vrai.
Mais je veux dire, je voudrais jamais retourner à mes 20 ans. Non, je trouve que on a des très beaux souvenirs. Il faut toujours regarder vers le futur.
Lorenzo Viotti, j'ai envie qu'on parle de votre métier ce matin, qu'on connaît mal, hein, finalement, si ce ne sont les gestes, bien sûr. Vous défendez une approche de terrain, une expérience de terrain. Vous dites que votre métier ne s'apprend pas le nez dans les livres, le mythe du chef d'orchestre, seul, l'érudit derrière ses partitions.
C'est pas ça, la réalité du métier. Non, aller à l'opéra, écouter les répétitions, assister à des auditions, jouer d'un instrument au sein d'un orchestre, chanter dans les chœurs pour avoir l'expérience d'un choriste, justement. Connaître l'autre position. Vous pouvez pas devenir le CEO d'une grande compagnie sans avoir débuté au plus bas. Et c'est pareil pour le chef d'orchestre. Si vous comprenez pas la psychologie d'un chœur, ça va être difficile pour vous de pouvoir psychologiquement les gérer. La position d'un percussionniste qui est tout au fond de l'orchestre et qui n'entend presque, jamais quelque chose de la part du chef. Si vous connaissez pas cette place-là, ou bien si vous avez pas eu la curiosité de parler à ces personnes-là, vous allez manquer beaucoup de choses. Notre métier, c'est pas juste prendre une baguette et puis gesticuler dans tous les sens.
Ouais.
Ça, c'est peut-être 1% du métier.
Alors, vous parliez des chefs d'entreprise, mais justement, on ne sait pas ce que c'est diriger un ensemble vivant, hommes et femmes, avec chacun leur vécu, leur expérience, leur sensibilité. J'insiste encore sur votre jeunesse. Vous n'avez jamais de difficulté à vous faire respecter.
C'est là, surtout quand vous commencez ce métier, qu'il faut être très ferme avec vous-même. Parce qu'une mauvaise expérience avec un ensemble où vous êtes justement trop jeune, vous n'avez pas la maturité nécessaire pour faire face. Si vous n'avez pas le coffre nécessaire pour déjà encaisser ces choses-là, et surtout la psychologie pour pouvoir les manipuler avec charme, parce que c'est ça qu'on fait au final,
ouais.
Et ben ça peut être très douloureux et vous pouvez peut-être même pas vous en relever. Il y a toujours cette question d'autorité qui revient. C'est moi le chef, tout ça. Ça c'est absolument ridicule. Si le résultat est bon et que les gens se rendent compte, waouh, le travail était vraiment dur. Mais le résultat final, waouh, on a vraiment super bien joué. Bah dans ce cas-là, les gens vont vous respecter.
Quand on pense chef d'orchestre, et vous en parliez, on pense à vos gestes. Est-ce que vous avez tous les mêmes ou est-ce que c'est propre à chacun ? Alors c'est vrai que c'est une question de profane, hein, mais ces gestes, ils sont importants.
Bien sûr. Moi, j'ai mon propre langage corporel. Vous verrez beaucoup de chefs d'orchestre, vous pouvez immédiatement dire « Ah, lui, il vient de cette école. Lui, il a étudié avec ce chef d'orchestre. » S'approprier sa propre langue corporelle en tant que chef d'orchestre, c'est très important. Chaque geste qu'on fait doit avoir un impact sur le son. Ça doit pas être un show pour le public. C'est pas de la gymnastique. C'est très physique, mais il faut qu'il y ait un impact sonore.
Oui.
Et du coup, ce langage, il doit être vraiment très authentique.
Je reviens à Faust, à l'Opéra Bastille. C'est à cette représentation qu'assistait Roselyne Bachelot, hein, avant de saluer les musiciens et surtout à la veille de découvrir sa positivité au Covid. Quand on sait la précaution que vous prenez pour pouvoir jouer, en apprenant qu'elle était malade, vous avez réagi comment ?
J'étais navré pour elle, parce que c'est pas marrant d'avoir le Covid, je l'ai eu. Et j'espérais surtout qu'il n'y aurait pas de contamination au sein de l'opéra, mais étant donné la sécurité qu'on a pris en fait depuis le début de cette production, on a travaillé 7 semaines ensemble, il n'y a pas eu une personne et on était plus de 2500 personnes à travailler tous les jours au sein de cette institution, à être testé 2 fois par semaine, à toujours porter le masque. On n'avait pas besoin de ça parce que ça a rajouté beaucoup de stress. Cette question de Covid, que ce soit dans les médias, que ce soit en plus la ministre de la Culture,
oui.
L'essentiel c'est que Madame la Ministre aille mieux, qu'on ait pu continuer à faire le spectacle et que, espérons que les institutions culturelles puissent rouvrir très prochainement.
Alors en attendant le public de retour dans la salle, Faust de Charles Gounod, c'est à voir, à écouter sur France 5 ce soir. Tiens, je voyais ce tweet d'un fan, hein, vraisemblablement, je vous le cite. Lorenzo Viotti, chef d'orchestre star, dirigera Faust depuis l'Opéra Bastille, diffusé sur France 5 vendredi. Choix cornélien face à Koh-Lanta. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez garantir autant d'aventures qu'à Koh-Lanta sur la scène de Bastille ce soir?
C'est génial. C'est très drôle. Il y aura autant de drames, ils seront pas les mêmes, mais en tout cas l'aventure émotionnelle sera, je pense, beaucoup plus forte. Oui.
Merci Lorenzo Viotti, merci beaucoup.
Merci.
h 50 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Bétou, l'édito politique, avant de retrouver Nicolas Canteloup. Vous êtes sur Europe 1. 7h52 sur Europe 1.
L'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Xavier Bertrand a officiellement lancé hier sa candidature à l'Élysée. Est-ce que l'opération est réussie ?
Comme si, comme ça. Oui, parce qu'il a dit tout haut ce qu'il avait déjà laissé entendre depuis des mois et parce que ce statut officiel peut donner une résonance nouvelle à ce qu'il dira. Oui, parce qu'il affiche un objectif clair et une ébauche de programme carré, sans ambiguïté. Et oui, parce qu'il a, à cette occasion, reçu le soutien enthousiaste de ceux qui le soutenaient déjà.
Oui, comme si, comme ça, disiez-vous, c'est donc qu'il y a un mais.
Ben oui, il n'y a pas eu d'effet blast. On n'a pas senti un grand souffle se lever, ni les lignes se déplacer. Alors bien sûr, son interview dans Le Point a déclenché un tir nourri venu des troupes d'Emmanuel Macron. C'est un indice de sa dangerosité politique pour le président, parce que c'est toujours mieux en politique d'affronter le feu plutôt que le silence. Mais à droite, pas de ralliement, aucun accusé de réception, ni signal favorable d'aucun dirigeant des Républicains.
Cette déclaration de candidature, ce serait donc un coup pour rien ?
Alors, pas forcément, non. Xavier Bertrand avait en effet 2 problèmes immédiats à résoudre. Le premier, c'est de tout faire pour s'imposer comme le candidat naturel de la droite à la prochaine présidentielle. C'est pour ça qu'il est parti tôt, pour occuper maintenant le terrain médiatique et politique, et ensuite pour accélérer. Tout faire pour éviter les primaires sur lesquelles comptent au contraire ses adversaires de droite. Il a donc posé des jalons, et on verra bien dans les semaines qui viennent si les sondages intègrent cette réalité qu'il voudrait imposer. Mais attention, plus il installe l'évidence de sa candidature au poste suprême, plus il complique son deuxième problème. Il est déjà candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Et il vient de dire aux électeurs « Votez pour moi, mais si vous m'élisez, alors je viserai tout de suite ». Une autre cible, c'est compliqué.
Donc, une fois encore, c'est comme ci, comme ça ?
Oui.
Et en ce qui concerne son programme ?
Alors là, il fait le job avec 3 axes principaux, la restauration de l'autorité de l'État, le travail pour lutter contre le déclassement et les territoires pour dépasser l'État impotent. Bon, c'est pas forcément original, mais c'est à noter, il tape sur chacun des points faibles d'Emmanuel Macron. Le régalien, la gilet jaunisation et la prise de pouvoir de l'administration. Bon, le chef de l'État est prévenu, son adversaire de droite, le plus dangereux à cette heure, fera campagne sur le bilan du quinquennat. Pas d'effet blast donc, mais un mauvais vent qui pourrait se lever.
Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et puis vous l'avez noté déjà, Xavier Bertrand a choisi Le Point et Europe 1 pour lancer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Xavier Bertrand au micro de Mickaël Darmon dimanche à 10h dans le Grand Rendez-vous, 7h55.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa manière, hein, l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit un professeur, le professeur El Bachir Ben Mohamed, immunologiste à la tête d'un laboratoire aux États-Unis, en Californie, à Irvine. Et c'est Michel Simès qui voulait lui dire un mot.
Eh oui, bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour, bonjour Laurent, bonjour Marina, même si elle n'est pas encore arrivée. Et bonjour à mon collègue, vous l'avez dit, El Bachir Ben Mohamed, qui est, comme vous le savez, le frère de Jimmy. El Bachir Ben Mohamed, il a un institut californien. Jimmy Mohamed, il a un prénom californien. Voilà, vous l'avez compris, se sont répartis la Californie de façon peut-être un peu déséquilibrée dans la famille Mohamed, mais l'important, c'est qu'ils soient tous heureux.
Didier Deschamps voulait aussi nous dire un mot ce matin.
Oui, non, je voulais rassurer Jimmy Mohamed, hein, c'est bientôt le mercato, hein, ça vaut aussi pour le mercato des médecins. Vous savez, c'est comme un football, hein, y a ceux qui jouent dans les grands clubs et puis ceux qui commentent sur Europe 1.
Quelle méchanceté, monsieur le sélectionneur. Didier Deschamps. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Alors, notez-le bien, le professeur El Bachir Ben Mohamed, formé pendant 10 ans à l'Institut Pasteur, il travaille aujourd'hui sur un vaccin universel contre les coronavirus. Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse qui est l'invité de Sonia. C'est à 8h15. Très bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.